Bonjour à tous, mes frères et sœurs. Vous l'avez sûrement remarqué avec moi et avec dans la société, la notion du bien et du mal est très variable. Ce qu'on appelle bien à une époque peut devenir mal à un autre et le contraire. Ce qui était mal peut être accepté, peut même devenir légal lorsque la majorité dans la population est en faveur. Et on peut penser à la légalisation de la marijuana. Il n'y a pas si longtemps, c'était grave, c'était très mal vu. Maintenant, c'est bien vu. Et comme notre frère le soulignait dans sa prière, il n'y a pas si longtemps, le fœtus dans le ventre de la maman était considéré comme précieux. Mais maintenant, ce qui est considéré comme précieux, c'est le choix, la liberté de la femme. C'est devenu une valeur supérieure. Au point où même un organisme, n'importe quel organisme qui veut bénéficier d'une subvention du gouvernement pour un emploi d'été, ne doit pas s'afficher contre l'avortement. Donc, même nous, en tant qu'Église, si on est contre l'avortement, on ne peut pas avoir de subvention fédérale. C'est même devenu... ça fait partie des règlements là, de notre pays. Donc, les temps changent et ce qui est bien pour l'un peut être mal pour l'autre. Et on voit la pensée du monde, c'est que tout est relatif. Il y a pas, en réalité, il n'y a pas de bien ou de mal absolu. Mais pour Dieu, c'est faux, cela. Il y a le bien, ça existe, et le mal, ça existe. Et c'est Dieu qui le détermine. Il a mis sa conscience en nous. Normalement, si on n'était pas affecté par le péché qui vient tout corrompre, on saurait ce qui est bien et ce qui est mal, de manière instinctive, c'est en nous. Mais on est détérioré, même notre conscience est affectée par le péché. Et on dévie individuellement et collectivement. Dans les dernières semaines, on a commencé à étudier les 10 commandements qui ont été donnés au peuple d'Israël. C'est Dieu qui a donné cela à son peuple. Et ça réglementait, en fait, presque toutes les sphères de la vie quotidienne dans le peuple, ou hebdomadaire. Mais ça touche tous les aspects, autant l'Israélite qui est à la maison, au travail, ou lorsqu'il sert son Dieu. Et c'est un bon aperçu de ce que Dieu considère bien et ce qu'il considère être mal. Et ça ne change pas à toutes les époques. C'est sûr que les 10 commandements sont donnés d'une manière que c'est dans le contexte du peuple d'Israël. Mais lorsqu'on regarde derrière ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas, ça ne change pas et ça demeure toujours vrai. Donc, c'est très utile de continuer à étudier ces commandements-là. Mais c'est bon de se rappeler dans quel contexte Dieu a donné les commandements. Pour cela même, on va remonter même à l'époque qui est décrite par la Genèse, au commencement des temps. La terre n'a pas été formée par hasard, ce n'est pas le fruit du Big Bang ou de l'évolution. Ce n'est pas mère nature, c'est Dieu qui a tout créé. La Bible commence en disant, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ou le ciel et la terre. Donc, Dieu se place, lorsqu'il se présente à nous, il se place tout de suite avec la position du Créateur. C'est en tant que Créateur qu'il nous parle. Et nous, si nous daignons l'écouter avec respect, nous devons nous placer en tant que créature. C'est lui qui détermine ce que nous devons faire, comment nous devons penser, parler, agir. Et il a créé l'homme à son image. Et comme je le disais, il a mis en lui la conscience du bien, du mal. Et il a créé l'homme et la femme pour qu'ils règnent, en fait, sur la création, sur la terre, qu'ils dominent, qu'ils la remplissent, qu'ils soient ses dignes représentants sur la terre. Mais lorsqu'on lit le récit de la Genèse, ça n'a pas pris longtemps que l'homme et la femme ont péché, étant séduits par Satan, et le mal s'est infiltré, la corruption. Et ils ont perdu, en fait, la dignité de bien représenter Dieu sur la terre. C'est encore la volonté de Dieu, mais ça ne va plus de soi. L'homme et la femme ne sont plus ses dignes représentants. L'image de Dieu en eux est comme déformée, ternie. Et l'homme, à cause du péché, est devenu impur. Et même dès la naissance, c'est comme si le code génétique a changé. Même la nature pécheresse, la nature de pécheur, se transmet de père en fils, de mère en fille. C'est en nous. Et on est devenu mortel à cause de cela, et même coupé d'une relation intime avec Dieu comme elle était à l'origine. Privé de la présence de Dieu et condamné pour l'éternité à une mort spirituelle. Mais Dieu... Déjà, dès le début, déclare qu'il va intervenir. Et il va quand même accorder sa protection sur la race humaine, même si elle est corrompue et qu'elle s'est tournée contre lui. Et il déclare dans Genèse 3:15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme », en parlant au serpent, à Satan. Il déclare qu'il va y avoir une guerre là, entre la descendance de la femme, les justes, ceux qui m'obéissent, et les injustes, ceux qui pratiquent le mal. Il dit « Entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le talon, ou tu lui écraseras le talon. » Donc, Dieu promet d'intervenir pour assurer, en fait, que le monde ne soit pas totalement corrompu. Il se garde une lignée qui va le suivre, sans que ce soit des hommes et des femmes parfaites, mais qui vont marcher avec lui, pour éventuellement que cette descendance-là écrase la descendance de Satan, c'est-à-dire Satan et tout le mal. Donc, Dieu promettait même dès les origines du monde qu'il allait un jour régler le problème du mal et le détruire totalement. Mais comme il l'avait annoncé, la terre se corrompt. Et on le voit à l'époque, avant Noé, que la terre est remplie de violence, au point où Dieu, en horreur, il décide de tout détruire par le déluge, sauf Noé, descendant de cette ligne-là, qui trouve grâce auprès de Dieu et sa famille. Et Dieu repart, dans le fond, l'humanité avec Noé et sa famille. Mais aussitôt que Noé sort de l'arche, Dieu quand même déclare que même Noé n'est pas parfait, que même lui, en lui, la nature pécheresse. On lit dans Genèse 8, « Le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. » Et on voit la terre qui se corrompt encore à nouveau. Mais Dieu garde une lignée jusqu'à un homme qui est choisi, Abraham, pour établir un peuple. Là, ce n'est pas seulement un homme qui va être de la descendance de la femme. Il veut établir un peuple qui va être distinct des autres peuples, un peuple qui va être saint, qui va être pur, qui va le représenter dignement dans sa création. Et il promet à Abraham qu'il va avoir une grande descendance. Et on le voit lorsqu'on lit le texte que sa descendance se multiplie rapidement, ils deviennent un grand peuple. Mais lorsqu'ils se multiplient, qu'ils deviennent un grand peuple, ils sont dans une situation temporaire, mais ils sont en esclavage en Égypte. Donc, ils ne sont pas chez eux, dans une terre qui ne leur appartient pas, entourés de gens qui font le mal, qui pratiquent l'idolâtrie, qui ne suivent pas Dieu le Créateur, qui n'ont aucun cas du Créateur, mais qui adorent au lieu la création. Mais ils sont entourés de cela, mais Dieu envoie Moïse pour les libérer de ce contexte-là et les envoyer dans un bon pays où ils vont pouvoir trouver le repos et servir Dieu de tout leur cœur. Et c'est en vue de cela qu'il leur donne la loi. Donc, la loi que Dieu donne à son peuple d'Israël, c'est dans le contexte de l'alliance qu'il fait avec eux. Pour qu'ils soient un peuple qui marche dignement, qui présente au monde ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, qui se distingue du monde corrompu. D'ailleurs, on lisait dans Exode 19, « Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. » Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, c'est-à-dire une nation à part. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Cette loi-là, nous ne sommes pas sous l'autorité de cette loi directe, mais elle révèle ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas. Elle révèle les concepts de bien et de mal. Donc, elle nous est très utile. Et en plus, en étudiant la loi, on voit comment Dieu accomplit tout ce qui est dans un sens prophétisé par cette loi. Et on va y revenir. Bon, lorsqu'on regarde la personne de Jésus-Christ, celui que nous louons par nos chants, et l'œuvre qu'il accomplit, toutes ses œuvres, il montre en réalité, en action, qui est Dieu, ce que la loi révélait à propos de Dieu. Je vous invite à tourner avec moi dans Exode 20. On va relire les 10 commandements du verset 1 au verset 17. Exode 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre ou de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, mais qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Amen. Nous avons déjà étudié les 5 premiers commandements. On a vu que les 2 premiers commandements montrent que Dieu attend de son peuple un culte exclusif. À la fois, il n'autorise pas son peuple à adorer une foule de dieux. Comme tous les gens de l'époque, à l'époque d'Israël, à cette époque-là, les peuples adoraient plein de dieux. Ils étaient prêts même à adorer peut-être le Dieu l'Éternel, mais ils n'allaient certainement pas abandonner leur autre Dieu. Mais Dieu dit à son peuple, « Vous allez m'adorer moi seul, je suis un Dieu jaloux. » Adorer le Créateur, c'est reconnaître qu'il est le seul Dieu, la seule divinité, la seule force spirituelle devant laquelle on doit s'agenouiller, devant qui on doit se soumettre. Et il dit aussi que nous ne devons pas nous faire de représentation, en fait, de statues, d'images quelconques pour l'adorer. Et très souvent, ces représentations-là que l'on fait, les statues, récemment, on est allé à New York et on a visité le musée de la nature, de l'histoire, en tout cas, je ne sais pas comment ça s'appelle. L'histoire de la nature. Et on voit dans toutes les civilisations dans le monde, ils ont tous des dieux. C'est impressionnant, mais le culte religieux qui prend forme dans des statues, des images, est partout. Mais toutes ces statues-là, ces représentations, en fait, sont basées de ce que l'homme connaît, de ce qu'il voit. Et donc, on retrouve la nature dedans. Soit le soleil, soit une forme humaine, un animal, un arbre, toutes des choses, enfin, qui sont la création de Dieu. Dieu, ce qu'il dit, lorsque vous adorez tout cela, vous êtes en train d'adorer la création et non pas le Créateur. Et c'est une faute grave. Dieu veut que son peuple l'aime, lui, exclusivement, et que l'amour de son peuple pour lui pousse son peuple à lui obéir, à lui être soumis de tout son cœur. On a vu aussi les 3 commandements suivants, qui ont trait à l'honneur, dans le fond, que le Créateur doit recevoir. L'honneur qui lui est dû. Le premier, c'est au niveau de son nom. Il commande d'honorer le nom du Créateur. Que ce soit Dieu, le Seigneur, l'Éternel. Nous comprenons que Jésus-Christ est Dieu. Le Saint-Esprit. Le nom de Dieu est sacré. Il représente Dieu. Et lorsqu'on l'utilise d'une mauvaise manière, on blasphème son nom, on le déshonore. Mais on comprend aussi que, puisque nous portons sur nous le nom de chrétien. Nous sommes étiquetés. La bannière que nous portons, c'est Christ. Partout où nous allons. Donc, en fait, honorer le nom de Dieu, honorer le nom de Christ, c'est non seulement en parole, mais c'est en action. Celui qui vit dans un péché scandaleux est en train de porter l'opprobre sur le nom de Christ. Donc, c'est profond d'honorer le nom de Dieu. Ça veut dire de l'honorer de toutes les manières dans notre vie, dans toutes les sphères de notre vie. Il nous demande aussi, il demandait à son peuple d'honorer le Dieu créateur qui a créé le monde en 6 jours et qui s'est reposé le 7e jour. Même on apprend que le 7e jour était un temps justement pour se souvenir du Créateur. un temps pour se reposer comme il s'est reposé, trouver le repos en lui, un temps où on peut prier. C'était devenu le signe du peuple d'Israël. On lit dans Exode 31, « Vous observerez mes sabbats, ce sera un signe entre vous et moi, dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous rend saint, qui vous sanctifie, qui vous met à part. » Un signe distinctif. Dans le Nouveau Testament, le peuple de la Nouvelle Alliance, il ne nous est pas ordonné de pratiquer le sabbat, mais c'est quand même encore un signe qui nous distingue, c'est que nous trouvons le repos en Jésus. Même dans l'épreuve, nous pouvons être dans la paix, dans la joie, parce que nous trouvons le repos pour nos âmes en Jésus. Et ce n'est pas seulement un jour par semaine, c'est toute la vie. Nous pouvons trouver le repos en Jésus, un repos sabbatique. Et même le royaume qui nous attend pour l'éternité est un royaume de repos éternel, un royaume sabbatique. Et c'est honorer Dieu que d'honorer cela, qu'il est, lui, le seul repos auquel qu'on devrait... dans lequel on devrait se trouver, qu'on devrait rechercher pour trouver la paix, le soulagement à nos inquiétudes. Et il demandait aussi d'honorer le Créateur en honorant les parents. Honorer son père et sa mère, c'est honorer le Créateur qui nous a accordé la vie par eux. C'est honorer l'autorité que Dieu a mis au père et à la mère. En réalité, lorsqu'on honore son père et sa mère, qu'on les écoute, qu'on les respecte, qu'on leur donne du temps, de l'argent, qu'on prend soin d'eux, c'est Dieu qu'on honore. C'est le Créateur qui leur a donné la vie. On va voir maintenant 5 autres commandements, les 5 suivants, qui sont plutôt au niveau horizontal, c'est-à-dire qui déterminent la manière dont Dieu voulait qu'un Israélite se comporte envers son frère israélite, envers son prochain. Parce que aimer Dieu, et ça découle en fait de l'amour de Dieu. Si on aime Dieu, on aime le Créateur, on va chercher à aimer ce qu'il aime, lui. Et il le déclare même ici, qu'il use de bienveillance envers son peuple jusqu'à 1000 générations, envers ceux qui l'aiment. Donc Dieu, ce qu'il déclare, c'est qu'il aime son peuple. Il les a portés comme sur les ailes d'un aigle. Il les a protégés, il a pris soin d'eux. Donc si on aime Dieu, on va aimer ce qu'il aime, donc on va aimer son peuple. On va aimer tous les membres de son peuple. Donc Dieu dit, en d'autres mots, si tu m'aimes, aime ton frère. Ça va de soi. Si tu n'aimes pas ton frère, tu ne m'aimes pas. Regardons le premier des 5 commandements, verset 13. Tu ne commettras pas de meurtre. Dans d'autres traductions, on lit, tu ne tueras point. C'est vraiment un verbe qui indique de causer la mort à quelqu'un. Mais c'est moins général que simplement ne jamais causer la mort. C'est vraiment ne pas tuer volontairement, ne pas commettre de meurtre, d'assassinat, directement ou indirectement. On se souvient du péché de David qui a envoyé son serviteur pour faire tuer Uri, mais il était lui-même coupable de ce meurtre. Mais c'est d'agir pour causer la mort de son frère, Dieu l'interdit. Ce n'est pas d'une manière absolue de ne jamais donner la mort, parce que ça entrerait en contradiction avec les versets suivants dans les chapitres où Dieu instaure la peine capitale, la peine de mort pour certains péchés. Où on voit plus loin que Dieu envoie son peuple à la guerre pour accomplir son jugement ou pour se défendre, pour protéger le pays. Mais c'était ce qui est interdit, en fait, c'est de commettre un meurtre. Et Dieu va donner des exemples plus loin. On lit dans Nombre en quoi ça consiste. Il donne des illustrations très claires là, de frapper son frère avec la main ou avec un objet, avec une pierre, ou avec un bâton, dans un accès de colère pour lui faire du mal et causer la mort. Que l'intention soit finalement qu'il meure ou qu'il ne meure, ou que ce n'était pas l'intention qu'il meure, peu importe, c'est d'avoir fait du mal et d'avoir causé la mort. Pourquoi Dieu a cela en horreur? Ça va de soi, c'est parce que c'est lui le Créateur, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui accorde la vie à quelqu'un, c'est lui qui enlève la vie. C'est lui le Maître. Qui sommes-nous pour oser mettre fin au jour de quelqu'un? Donc, pécher contre son frère, c'est pécher contre Dieu qui lui accorde la vie. C'est défier Dieu dans son autorité. C'est extrêmement grave, en fait, t'sais. Et en ce sens-là, on peut dire aussi que le péché contre soi-même, de se donner la mort, le suicide, ça va de soi, est mal. Qui sommes-nous pour décider de l'heure de notre propre mort? Même si nous sommes dans les souffrances, même si on n'en vient qu'à la conclusion que ça ne sert plus à rien de vivre, qui sommes-nous pour dire cela, pour décider cela? C'est entre les mains du Créateur. Et qui sommes-nous pour décider qu'un enfant, parce qu'il n'est pas encore sorti du ventre de sa mère, on peut mettre fin à ses jours? Je sais, c'est un sujet qui est très débattu. Mais à la lumière de la Bible, on n'a pas le choix que d'arriver à la conclusion que Dieu considère cela comme étant mal. L'argument, c'est que c'est le corps de la femme et qu'elle peut choisir ce qu'elle veut faire avec son propre corps. Le contre-argument à cela, c'est que oui, c'est son corps, mais le bébé qui est en elle, ce n'est pas son corps. C'est le corps d'un autre être vivant que Dieu a fait naître, à qui il a donné la vie. On lit dans les psaumes même que Dieu connaît les bébés avant même qu'ils naissent. Il connaît le nombre de jours qui lui est destiné. Mais ici, ce qui est spécifiquement interdit, c'est plus précis que cela, c'est de faire du mal à son frère pour mettre fin à sa vie. Dans une action de haine. Faire du mal. D'ailleurs, donner la mort à quelqu'un, c'est comme l'action de haine à l'extrême. C'est une manifestation ultime de la haine envers quelqu'un. On peut imaginer nos actions envers les autres, envers les frères et sœurs, comme sur une droite, une ligne. Il y a deux directions, là. C'est soit qu'on fait des actions poussées par la haine qui conduisent à des actions mauvaises. On fait du mal à notre frère jusqu'à éventuellement le meurtre. C'est rare ceux qui vont se rendre jusqu'à causer un meurtre, mais on peut s'engager dans cette voie-là de haine. L'autre direction, c'est des actions d'amour. Des actions justes, des œuvres bonnes, comme la Bible appelle. Dans l'autre direction, ce sont des œuvres mauvaises. Et pour Dieu, il y a seulement ces deux directions-là. La manière d'agir envers nos frères, c'est soit par amour, soit par haine. Ceux qui désobéissent à Dieu, c'est parce qu'ils haïssent Dieu, comme il disait un peu plus tôt. Ceux qui lui obéissent, c'est parce qu'ils l'aiment. Ceux qui font du bien à leurs frères, c'est parce qu'ils l'aiment. Ils aiment leurs frères. Ceux qui lui font du mal, c'est parce qu'ils haïssent leurs frères. Dans la société, avec la philosophie, on dit que le contraire de l'amour, c'est l'indifférence ou toutes sortes d'autres choses. On peut philosopher, mais ce que Dieu nous dit, le contraire de l'amour, c'est la haine. Parfois, on veut cacher cette vérité-là, mais lorsqu'on manque d'amour envers les frères, en réalité, c'est qu'on se dirige, on s'engage dans la voie de la haine. Dans Matthieu 5, 21-22, c'est Jésus qui prêche et qui dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Et moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement aussi. Celui qui dira à son frère, « Raca », je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, c'est en araméen, mais ça ne doit pas être gentil. Il sera justiciable du Sanhédrin. Et celui qui dira « insensé » sera passible de la géhenne et du feu. Ça semble extrême ce que Jésus dit. Mais en réalité, c'est que celui qui dit du mal à son frère pour le blesser. L'idée derrière, c'est cela. C'est que même en parole, on peut vouloir blesser quelqu'un, faire du mal. Mais lorsqu'on fait ça, on se dirige dans la même voie qui conduit au meurtre. C'est la même pensée, c'est la même motivation. Peut-être qu'on ne se rend pas jusqu'à tuer quelqu'un, mais notre intention est la même, c'est de vouloir faire du mal. Et c'est ce que Dieu a en horreur. Il nous dit, cessez de vous engager dans cette voie-là, engagez-vous dans la voie du bien. L'apôtre Jean, qui donne l'enseignement de Jésus, dans 1 Jean 3, nous dit, ne faisons pas comme Caïn, le fils d'Adam et Ève. C'est l'un des premiers péchés qui est nommé comme symbole de la corruption humaine après la chute de l'homme. Ne faisons pas comme Caïn qui était du malin, qui égorgea son frère. Pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Il s'était engagé dans la voie des œuvres mauvaises. C'est pour ça qu'il a finalement tué. Il n'a pas commencé tout à coup. Ça n'a pas été sa première réaction à Caïn de vouloir tuer Abel. Mais ses œuvres étaient mauvaises et ça l'a conduit à commettre un meurtre. Mais celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde a de la haine pour vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas, il demeure dans la mort, avec le monde. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Dans le fond, Dieu y résume à deux catégories, ceux qui font le bien et les meurtriers. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est complètement à l'opposé. De donner la mort, c'est de donner la vie. Et s'il faut même mourir pour permettre qu'un autre vive, c'est comme la manifestation ultime de l'amour. Donc, le commandement ici, on peut l'exprimer d'une autre manière, c'est « Tu n'haïras pas ton frère pour lui faire du mal. » Tu ne seras pas un meurtrier. Le commandement suivant dit au verset 14, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Pour Dieu, le mariage entre un homme et une femme est une alliance sacrée, solennelle. Et ça remonte à l'origine des temps, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, créé à son image. Il a dit, « L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. » Il nous a créés comme cela, pour que l'homme et la femme, lorsqu'ils s'unissent, que ce soit pour la vie, Dieu les considère comme étant unis en une seule chair. C'est une alliance sacrée pour lui. Et l'adultère, qu'est-ce que c'est? C'est la violation de cette alliance-là. La violation du devoir de fidélité envers l'époux. Et c'est premièrement, concrètement, dans le domaine sexuel, c'est trahir son époux en couchant avec quelqu'un d'autre. Et ça va de soi que c'est un péché contre le conjoint, mais contre Dieu créateur aussi, contre l'ordre qu'il a établi. Jésus, lui aussi, rappelle cette interdiction-là. Parce qu'à travers les époques, puisqu'on a la rébellion dans le cœur et puisqu'on veut suivre nos désirs, on cherche toutes sortes d'excuses pour éviter cet ordre-là créationnel et trouver même à inventer des nouvelles formes de couple ou de famille. Et Jésus rappelle à ses concitoyens que le mariage, ça demeure pour l'éternité. Il interdit, en fait, l'adultère, mais même il va plus loin pour que ses concitoyens comprennent qu'est-ce que c'est que l'adultère. Il dit que même le divorce et le remariage, c'est un adultère. Puisque le premier mariage est censé être maintenu jusqu'à la mort. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Quiconque répudie sa femme, la rejette, le divorce, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Même si par la suite il est fidèle à sa nouvelle femme, il est en adultère face à la première, et aucune raison n'est valable pour le divorce et le remariage, sauf si, comme Jésus le dit, logiquement, si l'autre a déjà brisé le lien du mariage par son adultère, par l'infidélité. Celui qui a été comme victime de cela peut considérer que son union est brisée. Et s'il se remarie, il n'est pas en situation d'adultère. Mais on comprend aussi à la lumière de la Bible, de toute la Bible même, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, que ce que Dieu encourage, c'est le pardon, la réconciliation. Combien de fois son peuple a été en position d'adultère face à lui, symboliquement, mais spirituellement, c'est qu'ils allaient adorer d'autres dieux. Ils trahissaient l'alliance qu'ils avaient conclue avec lui. Et Dieu était en droit, à la première infraction, de les rejeter pour toujours, ou de choisir un autre peuple. Mais il les reprend, il leur pardonne. Aussi, Jésus va plus loin que cela. Il nous dit que l'adultère, en réalité, c'est comme une action de haine envers le conjoint. Et ce qu'il exhorte, en fait, c'est d'avoir de l'amour. La fidélité dans le mariage dépend, dans le fond, de l'amour de l'époux envers l'épouse et de l'épouse envers l'époux. C'est le devoir de continuer d'aimer. L'adultère est un geste de haine. Et puisque c'est l'amour qui motive la fidélité, ça part dans le cœur. Et Jésus dit dans Matthieu 5, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Celui qui réfléchit, qui entretient des pensées de convoiter une autre femme, un homme qui est marié. Mais c'est la même chose pour l'épouse aussi, qui entretient des pensées de convoiter un autre homme. Ouvrir la porte à peut-être que je serais mieux avec un autre homme et d'alimenter cette pensée-là. Mais l'amour pour l'époux, pour l'épouse, en fait, n'est plus là. C'est une pensée de haine. Et pour Dieu, c'est comme si déjà l'adultère avait été commis. Ça part dans le cœur, en fait. La fidélité, c'est d'abord une fidélité dans le cœur. Et on peut penser à toutes sortes de pièges que la société met devant nous. Tous les jeux de séduction avec un collègue de travail, une collègue de travail, séduction avec un voisin, ou même un membre de la famille éloignée, un ami, ou un ami Facebook avec qui on entretient des longues discussions plusieurs fois par semaine et qui devient un confident, même qui prend le dessus sur notre propre conjoint. C'est vraiment une trahison là, de la confidence privilégiée qui devrait être avec l'épouse ou l'époux. Et ça, c'est un piège. Il y a combien de gens qui sont tombés, finalement, qui ont eu des couples brisés à cause d'une simple amitié banale sur Facebook ou un autre moyen de communication. Et bien sûr, ce qui est un piège pour beaucoup, surtout pour les hommes, c'est la pornographie et même la publicité. Tout le marketing utilise souvent cela. Utilise le désir qui est réveillé dans le cœur de l'homme et de la femme, mais c'est surtout les hommes qui sont visés par cela et qui vont tomber dans ce piège. Et veut pas, la pornographie amène l'amour pour le conjoint à s'éteindre. Et fait naître des pensées qui sont dirigées par la haine à la base. Mais comprenant que le mariage est pour la vie, que c'est quelque chose de solennel et que ça implique même un effort, un travail de tout temps, les gens à l'époque de Jésus sont venus à la conclusion c'est peut-être mieux de ne pas se marier. Et il y en a plusieurs aujourd'hui qui arrivent à cette même conclusion-là. Puisque c'est une alliance qui est sacrée, c'est peut-être mieux de ne pas se marier. Mais Jésus, tout de suite après, il leur dit, oui, mais attention, considérez ce que ça veut dire si vous ne vous mariez pas. Ça veut dire que vous vous engagez pour le restant de vos jours à être comme un eunuque. Vous mettez une croix sur les relations sexuelles. C'est ça que ça veut dire. Il y en a qui sont eunuques de naissance. Il y en a qui sont forcés. C'est un peu plus rare aujourd'hui. Oui, il y en a qui prennent cette décision-là parce qu'en réalité, c'est comme s'ils font vœu de célibat pour servir le Seigneur. Mais il faut être conscient qu'en dehors du mariage, Dieu interdit les relations sexuelles. En fait, il a créé cela, il a donné ce cadeau-là des relations sexuelles à l'homme et la femme pour que ça soit célébré dans le cadre du mariage. Dans Hébreux 13, on lit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Car Dieu jugera non seulement les adultères, mais les débauchés. Ça veut dire ceux qui pratiquent les relations sexuelles hors mariage. Lorsqu'ils le font, ils déshonorent l'institution du mariage. Donc, ils pèchent contre Dieu. Dieu enchaîne avec un autre commandement. Tu ne commettras pas de vol, au verset 15. C'est encore lié avec l'amour, la haine. En fait, ce qu'il nous dit, c'est de ne pas vouloir faire du mal à son frère en lui enlevant ce qu'il a. Et normalement, que celui qui commet un vol, c'est parce qu'il non seulement il veut enlever ce qu'il a, mais il veut se l'approprier pour lui. C'est vraiment une action égoïste, méchante. Mais Dieu veut qu'on respecte cela. La notion de propriété, elle existe. On peut essayer de se convaincre aujourd'hui par toutes sortes de philosophies que la propriété n'existe pas. Le communisme, c'était un peu cette pensée-là. Mais pour Dieu, la propriété existe. D'ailleurs, il déclare souvent que tout lui appartient. Ça appartient à Dieu. Et il donne des choses aux hommes. Comme Jésus disait, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais la propriété, elle existe. C'est un concept réel. Ce qui appartient à mon frère, lui appartient réellement. Et si je lui prends, je blasphème, en fait, je contreviens à ce principe-là. Et je remplace le principe de la propriété par la loi de la jungle, la loi du plus fort, la loi du plus intelligent, du plus rusé. Ou dans certains milieux, la loi du plus brave. C'est celui qui sera le plus courageux qui va réussir à entrer dans une maison pour voler. C'est parfois même un rite d'initiation dans les gangs. Même certains dans certains films au cinéma, même, on peut se surprendre, mais le courage pour commettre un vol est mis en valeur. Il y a des valeurs dans le monde qui s'infiltrent par le cinéma et qui peuvent venir modifier notre manière de penser. On peut venir qu'à louanger quelqu'un qui a fait un vol de banque parce qu'il était très intelligent. On se surprend des fois à penser comme cela. Ça devient de plus en plus banal. Mais c'est normal, le mal est partout. Et si on n'y prend pas garde, on va finir par penser que ce n'est pas grave. Certains vols, d'ailleurs, peuvent nous sembler moins graves, inoffensifs. Comme voler à une entreprise. Voler à Microsoft. C'est pas très grave. Là. Bill Gates, c'est l'un des hommes les plus riches sur la Terre. Mais c'est un vol quand même. Ou si on travaille pour une grande compagnie, voler des crayons, des tablettes de feuilles pour la maison, des cartables, ou utiliser le matériel pour des fins personnelles, c'est considéré comme un vol. Ou voler du temps où on est payé, rémunéré, pour une utilisation personnelle ou pour faire toutes sortes d'autres choses. Voler à un auteur, à un compositeur. Voler au gouvernement. Le gouvernement, ils ont des millions en banque, qui font des profits. Ils me volent. Ce n'est que justice de ne pas tout déclarer. Mais c'est faux. Et le vol, malheureusement, c'est souvent une solution paresseuse. C'est une solution facile, en fait. C'est pour ça que Jésus nous enseigne par l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, celui qui dérobait, celui qui volait, qu'il ne vole plus. C'est de la paresse. Mais plutôt qu'il prenne de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir non seulement de quoi répondre à ses besoins, mais pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est vraiment l'inverse qui est enseigné par Jésus. Cesser de prendre ce qui ne nous appartient pas, mais au contraire, essayer d'avoir de plus en plus de biens, de moyens pour aider. Donc, c'est dans la direction inverse d'aimer, de pouvoir partager ce que l'on a, répondre aux besoins des autres. Et l'avant-dernier commandement qu'on étudie, le verset 16, « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Un faux témoignage, c'est un mensonge, mais un mensonge qui est orienté dans le but de faire du mal à son prochain. Un faux témoignage, en fait, c'est de dire quelque chose que supposément un frère aurait fait ou aurait dit, mais qui est faux, pour que lui, ça lui attire du mal, pour produire du mal à son frère. Donc, en d'autres mots, c'est la calomnie, la médisance. Parfois, c'est simplement parce qu'on veut influencer l'opinion que les gens ont d'une personne. On considère que notre frère est vraiment mauvais, puis on s'étonne que les autres trouvent que c'est une bonne personne, puis on veut rectifier la situation. Et vous ne comprenez pas, là, il est mauvais. Puis on tente d'influencer l'opinion que les gens ont de cette personne-là pour que justice soit faite encore. Et ça, Dieu déteste ça. Et parfois, ça peut être même pour se venger. La personne nous a fait du mal, et vraiment méchamment, on va répandre des faussetés à son sujet pour lui faire du mal. En sa présence ou dans son dos. Mais dans les deux cas, de toute manière, c'est un faux témoignage. Et Romains, dans Romains 12, on lit « Ne vous vengez pas vous-même. » Parce que c'est vrai parfois que la personne nous a fait du mal. « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé. Laissez agir la colère, car elle est écrite « À moi la vengeance. » C'est Dieu qui parle. « C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » On peut tenter parfois, si on est dans le pétrin, on s'est mis soi-même dans une situation où on pourrait paraître très mal, les conséquences pourraient être graves, et c'est comme si on veut faire rebondir ça sur quelqu'un d'autre. On peut mentir pour se sortir du pétrin, mais en réalité, on est en train de faire du mal aux autres pour s'en sortir. Comme quelqu'un qui se noie et qui s'accroche à quelqu'un qui est à côté de lui, mais il est en train de le noyer pour avoir la vie sauve. Mais on peut être tenté de faire cela. Surtout quand les conséquences sont... On voit qu'elles sont graves et qu'on ne pourra plus revenir en arrière pour cacher quelque chose qui pourrait vraiment nous mettre dans de gros problèmes. On peut faire du mal aux autres. C'est comme si tout à coup, ça devient justifié. C'est par mesure de survie. Mais Dieu a cela en horreur, particulièrement envers quelqu'un de son peuple, envers son frère, envers un serviteur de Dieu. Donc, au nom de l'amour pour ses frères, la seule chose qui convient, c'est la vérité. C'est la marque, dans le fond, du vrai chrétien. Dans Éphésiens 4, 25, on lit « C'est pourquoi rejeter le mensonge. Que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. » Mais là, il ne parle pas de... C'est sûr que c'est envers tout le monde sur la planète, mais particulièrement envers son frère. Ce qu'il dit, qu'il parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous devons comprendre que nous sommes tous les membres, chacun de nous, du corps de Jésus dont il est la tête. Ça ne fait pas de sens qu'un membre mente à un autre membre du même corps, alors que Jésus lui-même est la vérité. On vient souiller tout le corps lorsqu'on pratique cela. Donc, par amour pour son frère, éviter en parole de lui faire du mal. Ça ne veut pas dire que toute vérité est bonne à dire. Parfois, il vaut mieux se taire. Mais parfois, lorsqu'on se tait, on va causer du mal. En réalité, la règle, c'est de tout faire pour ne pas provoquer le mal chez son frère. Par amour, parfois, il faut parler, parfois, il faut se taire, mais que tout soit vrai. Et le dernier commandement qui est au verset 17, tu ne convoiteras pas tout ce qui appartient à ton frère. Convoiter, c'est envier son frère. C'est être jaloux, mais d'une mauvaise manière. Là. C'est de vouloir ce qu'il a. C'est même une certaine frustration qu'on peut avoir du fait que notre frère a quelque chose que nous, on n'a pas. On peut être jaloux. Ici, on peut être jaloux même de l'épouse qu'il a. Ou pour une femme, on peut être jaloux. Elle peut être jalouse du mari qu'une autre femme a. Des enfants. Ici, il parle de même des serviteurs, des servantes. Ça veut dire de sa position sociale. Ses richesses, son travail, de qui il est. Son bétail, c'est aussi un exemple de ce qu'il possède. Mais quand on envie, quand on convoite, ça influence inévitablement les paroles. Ça ne reste pas seulement dans le cœur. Ça va nous pousser. C'est déjà un péché en soi, mais en plus, ça va modifier la manière dont on parle de cette personne-là. Ou qu'on lui parle, qu'on agit, ça va nous pousser à toutes sortes de péchés. Ça influence inévitablement nos paroles, nos actions, et ça détruit les relations fraternelles. Une compétition malsaine, ça crée des divisions dans l'Église, des murmures. Ça vient vraiment briser la communion, l'unité du corps de Christ. Donc, c'est une chose très grave que de convoiter. Que d'être jaloux. C'est même une manifestation de l'orgueil, de la vanité qui doit être rejetée. Parce que lorsqu'on en vit, lorsqu'on est frustré, c'est qu'on pense que nos propres désirs, nos besoins, en réalité, sont plus importants que l'autre. Et on voudrait avoir ce qu'il a. Mais Jésus nous demande de rejeter tout cela. On lit dans Galates 5, « Ceux qui sont au Christ Jésus, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux ou orgueilleux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. C'est vraiment une chose à proscrire pour le bien de l'unité du corps de Christ. Et lorsqu'on convoite, on sait aussi, on pêche directement contre Dieu, même si on n'en est pas conscient. Mais on est en train de dire à Dieu, tu n'es pas réellement un Dieu bon, comme tu prétends l'être, puisque tu ne m'as pas donné ce que mon frère a. Il me manque toutes ces choses-là. Comment ça se fait? Si tu es un Dieu bon, comment peux-tu oser ne pas me donner tout cela? Et on ne se satisfait pas de ce qu'il nous a donné, et on doute même de la justice de Dieu. Mais Dieu dit qu'il possède tout, et qu'il donne comme il veut, et qu'en tout cela, il est juste. Dans Matthieu 20, c'est dans une parabole, mais on voit que c'est la pensée de Dieu. Il dit, ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Donc, que je sois bon envers les autres? Tu devrais plutôt te réjouir de ce que j'ai donné aux autres, plutôt que d'être égoïste et d'oser douter de ma justice. Donc, on peut voir tous ces commandements-là se résument à « Aime ton frère. Aime-le d'un cœur sincère dans toutes tes activités, toutes tes paroles, tes pensées. Aime ton frère. » Et même, d'ailleurs, l'amour pour son frère, ça résume tout cela. Dans Romains 13, verset 9, on lit « En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. » Et en fait, tout autre commandement se résume dans cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Pour cela, bien, imitons Jésus. Lorsqu'on lit cela, on voit ce que Dieu n'aime pas, en particulier ici, et ça nous aide à comprendre ce qu'il aime. Mais Jésus, en venant sur terre, nous a démontré vraiment qui est Dieu, étant lui-même Dieu. Et en regardant la manière dont il agit, son œuvre, nous comprenons toute la portée de ses commandements, de la volonté de Dieu. Jésus est le contraire d'un meurtrier, comme on l'a souligné tantôt par nos chants et nos prières. Il n'est pas celui qui cause la mort, il est celui qui était prêt à donner sa vie pour nous procurer la vie éternelle. Il est complètement à l'opposé. Il nous donne la vie éternelle. C'était ça le cœur de sa mission. C'est pour cela qu'il est venu sur terre. Jésus, en tant qu'époux de l'Église, il se montre comme un époux envers son épouse, sa fiancée. Et un jour, il y aura des noces. Il est l'exemple parfait de fidélité. Jamais ça va lui passer par la tête de trahir son épouse, de tomber dans l'adultère. Il est fidèle, il prend soin de nous de manière extrême, ultime et pour l'éternité. En cela, il montre vraiment le cœur de Dieu. Il est tout le contraire d'un voleur. Il ne prend pas ce qui ne lui appartient pas. Au contraire, même il partage toute sa richesse envers nous. Il nous fait bénéficier de sa richesse, de sa gloire. Il est le contraire d'un menteur. Tout ce qu'il nous a dit est vrai. Il est lui-même la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus est le contraire d'un envieux. Il est le contraire de quelqu'un qui est frustré parce qu'il perd quelque chose. Ça a été mentionné aussi tantôt, il a tout laissé au ciel pour venir sur terre. Il a été prêt à se dépouiller pour venir comme un pauvre homme qui même sur terre a eu, aux yeux des gens, a tout perdu, sa réputation, son honneur, jusqu'à mourir comme un vulgaire criminel. Il a perdu la vie. Donc, il était le contraire d'un envieux, il a tout donné pour nous donner la vie, pour nous sauver. Donc, comment devons-nous aimer nos frères d'une manière pratique? Bien, la réponse, c'est regardons Jésus, ce qu'il a fait. Suivons Jésus. C'est comme cela que nous allons accomplir la volonté de Dieu. Si nous imitons Jésus dans toutes les circonstances de notre vie, nous allons aimer nos frères. C'est pour ça que Jésus nous le demande. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme, ça veut dire de la même manière. Regardez comment je vous aime et faites la même chose envers vos frères. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Peut-être que, comme moi, en voyant la volonté de Dieu, ça vous rappelle des péchés que vous avez commis. Vous avez peut-être une culpabilité dans le cœur, mais confessez vos péchés à Jésus. Sachez que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Comment? C'est parce qu'il a une carte de crédit sans limite. Il a payé tous nos péchés. Et même si vous pensez que vous avez trop péché, que vos péchés sont trop graves, le sacrifice de Jésus peut tout combler. La grâce de Dieu surmonte tout cela. Repentez-vous, repartez à zéro. Il n'est jamais trop tard, sauf au moment où on meurt. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Mais aujourd'hui, vous respirez, repentez-vous et repartez dans la direction de l'amour à suivre Jésus. Si vous marchez avec Jésus, lui, il s'engage à vous fortifier, à jamais vous laisser tomber, à vous relever si vous tombez, à vous purifier. Dans 1 Jean 1, 7 à 9, Nous lisons, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Amen.